Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dieu est-il injuste? Vous avez certainement votre idée là-dessus. Alors je vous propose, pour répondre à cette question, de lire le passage qui m'a amené à me la poser, cette question. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Je punis la faute. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. La lecture de ce texte peut laisser un malaise, en tout cas moi elle m'a laissé un malaise. Hein, dans nos consciences un petit peu aseptisées. C'est vrai que entendre dire qu'on peut punir la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération, on se dit, ouais, c'est... En tout cas, ça ne nous paraît pas juste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça ne paraît pas juste. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste. Nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 17, « Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le reverrez. » Dieu juge impartialement. Alors, c'est quand même bizarre de dire il juge impartialement et il punit la faute des pères sur les enfants. On en parle beaucoup moins depuis qu'il y a le coronavirus. On a un petit peu laissé de côté les affaires de terrorisme et tout ça. N'empêche qu'il reste encore aujourd'hui, c'est ce que disent les autorités françaises, ils estiment qu'environ une centaine de Français et quelques 300 enfants se trouvent dans des camps de réfugiés comme Al-Hol dans le nord-est de la Syrie, tenus par les forces kurdes. Ces enfants qui n'ont rien demandé se retrouvent bien exposés à la guerre, à la faim, au mauvais traitement, uniquement de par le choix de leurs parents. C'est leurs parents qui ont décidé de faire la guerre et pourtant ces enfants, ils sont exposés à tout cela. Et chacun d'entre nous a certainement, à titre individuel dans sa famille, un exemple, connaissance, où des enfants subissent les conséquences des choix de leurs parents. Et même collectivement, nous ici, nous savons que nous subissons les conséquences des choix d'Adam et d'Ève. La conséquence du péché d'Adam, c'est que nous sommes, nous, chrétiens du vent Blanc-Ménil au 21e siècle, mais d'ailleurs l'humanité tout entière, pécheurs. Et nous sommes obligés de constater que cette conséquence, elle n'est pas juste symbolique. Hein. Quand on dit que l'être humain est pécheur, ce n'est pas juste une étiquette qu'on y colle. Le péché a véritablement des conséquences graves sur nous. Et donc, nos choix, nos décisions impliquent des conséquences logiques et naturelles sur les générations futures. Mais Dieu soit loué, Dieu soit loué parce que Dieu n'est pas injuste. L'obéissance à sa volonté peut créer un cercle vertueux infiniment plus durable que les conséquences de la condamnation du péché. Et c'est vrai que des fois, quand nous lisons la Bible, nous nous arrêtons des fois sur les passages qui nous semblent le plus choqués. Nous oublions de lire celles qui nous parlent de l'amour de Dieu. J'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Conséquence du péché sur 3-4 générations, mais l'amour de Dieu qui... L'amour de Dieu qui se maintient, qui nous comble jusqu'à 1000 générations, qui abondent dans nos cœurs. Donc à la question, est-ce que Dieu est injuste? J'ai envie de répondre non. Dieu est bon. Dieu est bon, nous commettons des actions qui, effectivement, ont des conséquences au-delà de nous-mêmes, ont des conséquences sur les générations qui suivent. Mais Dieu est bon et son objectif, c'est de faire du bien jusqu'à 1000 générations, nous dit la Bible. Alors Dieu n'est pas injuste. Il est bon, mais il est juste. Dieu est bon. Mais il est juste. Alors vous vous demandez pourquoi je dis mais. Dieu est bon, mais il est juste. C'est important parce que on voudrait que si Dieu est bon, hein, dans notre culture, hein, on est tous plus ou moins jeunes, on va dire. Si Dieu est bon, il est cool. Il est cool, il est même coulant. Hein? Et on entend des choses comme ça. On ira tous au paradis. C'est ça, vous connaissez tous cette chanson. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Les saints, les assassins, même combat. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Qu'on ait fait le bien, qu'on ait fait le mal. On sera tous invités au bal. Enfin, voilà. Si Dieu est bon, on ira tous au paradis. Est-ce que vous croyez que c'est ça? Ça serait vrai si Dieu n'existait pas. Mais si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas de paradis. Voilà. Ce n'est pas vrai. Dieu est bon, mais Dieu est juste. Dieu est juste. Cela signifie que forcément, dans sa justice, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole, c'est-à-dire qu'il fait, il pose des règles, il pose des ordonnances, et en contrepartie de ces ordonnances, il y a des bénédictions et il y a des punitions pour ceux qui les transgressent. Et parce que Dieu est juste, il veille à ce que sa parole soit accomplie. Mais du coup, on revient à la question précédente. Est-ce que notre filiation n'est pas une condamnation? Alors, on pourrait se dire, bon ben, c'est tout. Moi, ceux qui ont la chance d'être nés dans une famille chrétienne, bon ben, ils connaissent Dieu, et puis voilà, tant mieux pour eux. Ceux qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne, eh ben forcément ils sont condamnés parce que ils connaissent pas Dieu. Non, Dieu est bon. L'Éternel m'adressa la parole, c'est Ézéchiel chapitre 18, et me dit: qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel le déclare, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi, eh bien, c'est la personne qui pêche qui devra mourir. C'est la personne qui pêche qui devra mourir. Alors bien sûr, c'est plus facile peut-être, on va dire, entre guillemets, parce que, je dis entre guillemets parce qu'on sait que la mission de parent n'est pas forcément évidente. Alors c'est plus facile peut-être en se disant, bon oui, je suis chrétien, je viens à l'église, donc je vais faire ce que me dit la Bible, c'est-à-dire instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est vrai? Mais la Bible nous dit que dans sa justice, dans sa bonté, hein, il laisse quand même le libre arbitre à tous. Tout le monde a le libre arbitre et la possibilité de s'échapper de la condamnation à la suite du passage d'Ézéchiel, nous disons. Voici un homme dont le fils a été témoin de toutes les fautes commises par son père. Bien qu'il ait vu ses fautes, ce fils ne les a pas imitées. Il n'a exploité personne, il n'a pas retenu de gages ni commis de vol. Il a donné son pain à celui qui avait faim et des vêtements à celui qui n'en avait pas. Il n'a pas fait de tort aux pauvres, n'a pas prêté à un taux usuraire, ni retenu des intérêts. Il a appliqué mes lois et vécu selon mes commandements. Eh bien, ce fils-là ne mourra pas pour les fautes de son père. Il vivra. Il vivra parce que Dieu est juste et parce qu'il est bon. Il donne à chacun, à chaque être humain, la possibilité d'être sauvé. Et Paul va même plus loin. Alors, c'est vrai que nous sommes appelés, nous chrétiens, à annoncer la bonne nouvelle, à parler autour de nous de Jésus-Christ pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le rencontrer. Mais Paul nous dit que l'univers entier, la création, parle et témoigne de Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Romains, il écrit « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » Il n'y a pas d'excuse pour ne pas connaître Dieu. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas se plier à la volonté de Dieu. Parce que l'univers tout entier nous raconte la grandeur et la justice de Dieu. Donc chaque être humain, il appartient à chaque être humain de faire un choix, de faire le bon choix. Et c'est quoi le bon choix pour un être humain? On a vu que Dieu est bon, mais qu'il est aussi juste. C'est quoi le bon choix pour un être humain? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Par le péché, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il vient de nous dire que Dieu est bon, Dieu est juste, et pourtant, on est tous condamnés à mourir uniquement à cause de ce qu'a fait Adam. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Mais non, ce n'est pas grave du tout parce que ce verset central de la Bible nous apporte en même temps la preuve de la justice et la preuve de l'amour de Dieu. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Là est le choix individuel. Là, je ne peux plus me cacher derrière ce qu'a fait mon père ou derrière ce que feront mes enfants. C'est moi. Dieu a donné son Fils unique pour que si moi, personnellement, je place ma confiance en lui, j'échappe à la perdition. Pour que si toi, tu places ta confiance en lui, tu échappes à la perdition. Là, ça nous remet à notre responsabilité individuelle. Ça nous remet devant nos responsabilités individuellement de croire ou de ne pas croire au sacrifice de Jésus-Christ, d'accepter ou de ne pas accepter la vie que lui, en tout cas, met à notre disposition. Alors, les règles sanitaires ne nous permettent pas de partager la scène, mais je vous invite à prendre quelques secondes, voilà, pour vous examiner, pour vous dire, pour vous demander si, on va dire, symboliquement, voilà, là maintenant, si spirituellement vous êtes prêts à partager cette scène dans vos cœurs, à vous rappeler, comme notre sœur Sabrina en a parlé ce matin, à vous rappeler les souffrances de Jésus-Christ, et surtout, à vous rappeler sa mort et sa résurrection. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à manger en esprit ce pain qui symbolise son corps, à vous abreuver à la source de vie, son sang qui est un torrent de vie qui coule et qui continue de couler pour l'humanité entière. Est-ce que vous voulez participer au repas du Seigneur aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité dans son royaume. Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous rappelle son amour, nous rappelle sa justice, sa bonté, sa grâce. Et il nous appartient de nous saisir de tout cela après avoir fait le vide dans nos cœurs, comme nous l'a rappelé notre sœur Sabrina, après nous être dépouillés de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui empoisonne nos vies, justement de tout ce que nous avons hérité culturellement, hérité familialement, voilà, hérité... Voilà, on a plein d'héritages, mais des héritages qui sont comme des boulets qui nous entraînent vers le fond. Ce qu'il faut, c'est de nous en débarrasser et accepter de placer simplement notre confiance en Jésus-Christ, personnellement, pour abandonner cette... condamnation à mort et hérité de la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun de mes frères ici, mes frères et sœurs présents ici, et pour moi-même. Oui, Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice. C'est vrai que nous étions condamnés parce que nous sommes pécheurs, nous avons hérité de cette nature pécheresse, et aujourd'hui nous sommes pécheurs. Mais grâce te soit rendue parce que ton amour abonde sur des centaines, des milliers de générations. Et alors que le diable veut nous condamner, veut nous culpabiliser pour les fautes de nos ancêtres, toi tu nous apportes, Seigneur, ton salut par le sacrifice de Jésus et tu nous invites à ta table. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides vraiment à garder en tête, jour après jour, le sens et la valeur de ce sacrifice. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, mon Dieu, à vraiment se tourner vers toi à chaque instant de sa vie. Et je te prie particulièrement pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, ceux qui n'ont pas encore compris le sens de ce sacrifice, ceux que le diable aveugle pour les empêcher de fuir cette condamnation. Je te prie, Seigneur, que tu te révèles à eux individuellement, que tu leur fasses ressentir ta présence dans leur vie parce que tu es venu au contact de chacun d'entre nous et tu es présent. Je te prie que tu te fasses, que tu leur fasses ressentir ta présence, Seigneur, et que tu leur donnes la force par ton esprit de dire oui, Seigneur, entre dans mon cœur. Oui, Seigneur, prends toute la place. Oui, Seigneur, ma vie est à toi. Amen. Amen.
Merci à notre frère Simon.